SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Grégory Pless pour vous servir, j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pendant une heure d'émission en français. Au menu ce jeudi, Audrey Bourget va nous parler des peuples aborigènes et plus précisément de leur lien unique avec la Terre. Le jeudi, c'est aussi le jour où on parle d'économie. Nicolas Perpich et Christophe Mallet reviendront notamment sur la descente aux enfers de Bonza, une compagnie aérienne qui n'a désormais plus aucun avion. On fera aussi un point sur l'actualité sportive et notamment sur les derniers matchs de la Ligue des Champions. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera le Petit Théâtre de Sydney, une troupe francophone qui revient bientôt sur scène avec une adaptation de la comédie musicale « 8 femmes ». Mais pour commencer, place à l'actu, c'est l'heure du journal. À la une de ce jeudi 2 mai 2024, le gouvernement travailliste dévoile ses premières mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Aux États-Unis, toujours des affrontements violents sur les campus de plusieurs universités entre militants pro-palestiniens et pro-israéliens. Enfin, en France, à l'occasion du traditionnel défilé du 1er mai hier, les syndicats ont appelé à défendre les conditions de travail des travailleurs pendant les Jeux Olympiques. Et on l'apprend à l'instant, un jeune surfeur de 22 ans a été poignardé à mort ce matin dans la ville de Coffs Harbour, au nord de la Nouvelle-Galles du Sud. La police sur place mène actuellement des recherches pour retrouver son assaillant. Elle appelle également toute personne ayant des informations à ce sujet à la contacter au plus vite. Je précise qu'à ce stade, donc, l'identité du meurtrier n'est pas connue, pas plus d'ailleurs que ses possibles motivations. Et puis, je vous le disais dans les titres, à la suite des importantes manifestations ces derniers jours pour dénoncer les violences contre les femmes, le Premier ministre Anthony Albanese vient d'annoncer une initiative visant à supprimer les contenus misogynes en ligne. Un plan qui prévoit également d'imposer des mesures de vérification d'âge beaucoup plus strictes aux sites pornographiques, mais aussi une campagne nationale visant à dénoncer les attitudes misogynes et la violence auxquelles sont confrontées les femmes sur Internet. Une bataille cruciale, selon Anthony Albanese, pour qui ces types de contenus qui pullulent sur le web peuvent avoir une énorme influence sur les plus jeunes. Il s'en est expliqué chez nos confrères de ABC.
You have a debate at times about, you know, freedom of information and those issues, free speech. This isn't free speech to promote hatred and violence and misogyny. We need to have that debate as a society as well.
Et parallèlement à ces mesures qui visent à faire évoluer les mentalités, les travaillistes comptent également mettre la main à la poche pour mieux protéger les femmes, avec notamment une enveloppe de 925 millions de dollars destinée à soutenir justement les femmes fuyant des violences conjugales. Un programme qui sera mis en place à partir de juillet 2025 et que la ministre des Services sociaux, Amanda Rishworth, a défendu sur Channel 7.
This program is a very important permanent program now, and that means that women will have the financial support that they will need if they are thinking about leaving. But of course, it's not the only program. We need to make sure that we are investing in prevention, early intervention, response, and also healing and recovery. That's another important area, because we don't want the cycle of this violence to continue.
À noter enfin que c'est aujourd'hui que Molly Ticehurst sera enterrée dans la ville de Forbes en Nouvelle-Galles du Sud, où se tiendra également une cérémonie funèbre ouverte au public pour lui rendre hommage. Cette jeune femme de 28 ans est morte il y a quelques jours sous les coups de son ex-conjoint, qui venait d'être libéré sous caution après avoir justement été arrêté pour des violences la ciblant. Sur un tout autre sujet, l'Australie va-t-elle devenir un champion de la recherche médicale? C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement fédéral, qui vient d'annoncer qu'il allait investir 2 milliards de dollars dans un fonds dédié à la recherche, qui se focalisera notamment sur le cancer, les inégalités en matière de santé et la santé des femmes. Un plan qui fait partie du projet de réindustrialisation porté par les travaillistes et baptisé Future Made in Australia. Je vous propose d'écouter Mark Butler, le ministre de la Santé.
Health and medical researchers, in my experience in Australia, are never content to rest on their laurels. They're constantly wanting to continue to push the envelope. And today's announcement of a package of around $1.9 billion in initiatives that will be contained in the budget the week after next will, I think, really assist health and medical researchers in Australia to do exactly that.
Et si l'Australie a pleinement pris conscience du risque que représente la Chine pour sa sécurité, elle sous-estime complètement le risque bien plus sérieux que fait peser le réchauffement climatique. C'est la déclaration choc d'un ancien chef de l'armée australienne, l'amiral Chris Barry, qui déplore que la stratégie de défense nationale dévoilée le mois dernier par Richard Marles fasse à peine mention de cette menace climatique. Il considère pourtant pour sa part qu'elle représente, je cite, un défi sans précédent pour la sécurité nationale et un amplificateur de pauvreté, d'insécurité alimentaire et de déplacements non désirés de populations. Chris Barry relève par ailleurs que le projet du gouvernement de renforcer et de construire de nouvelles bases militaires dans le nord du pays ne tient absolument pas compte du fait que les régions où elles se trouvent, en cas de réchauffement supérieur à 2,5 degrés, ce qui n'est malheureusement pas une perspective irréaliste, seront dans des zones totalement invivables. Depuis 2022, Anthony Albanese refuse pour sa part de rendre public un rapport des services de renseignement qui avait évalué les risques pour la sécurité de l'Australie posés par le réchauffement climatique. Le Royaume-Uni a expulsé hier un premier demandeur d'asile débouté par les autorités vers le Rwanda dans le cadre de la politique anti-immigration poussée par l'actuel gouvernement conservateur et qui s'inspire directement des centres de détention offshore opérés par l'Australie. Londres et Kigali ont ainsi signé la semaine dernière un partenariat permettant la mise en œuvre de cette politique. Politique par ailleurs considérée comme contraire au droit international sur les réfugiés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Précision Emeline Vin pour RFI.
Le migrant originaire du continent africain et débouté de sa demande d'asile au Royaume-Uni a reçu 3500 euros pour partir s'installer au Rwanda où il aura le droit de vivre et de travailler. Une relocalisation volontaire rendue possible par un programme annoncé en mars par le gouvernement britannique. Les demandeurs d'asile ayant épuisé tous leurs recours ainsi que certains criminels étrangers peuvent postuler pour partir s'installer dans un pays tiers sans pour autant être renvoyés dans leur pays d'origine. Il ne s'agit pas ici du partenariat Rwanda promis depuis 2 ans par Londres, qui doit viser, lui, les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique, eux n'auront pas la possibilité de demander l'asile et seront expulsés de force vers Kigali sans toucher ces 3500 euros. Cependant, pour l'exécutif, cette réinstallation montre bien que le Rwanda est un pays sûr, à même de recevoir des groupes de migrants, un argument contesté par la justice britannique. Elle fournit également un symbole fort pour les électeurs à la veille d'élections locales à travers le pays où le parti conservateur au pouvoir est annoncé perdant. Emeline Van Londres, RFI.
Le Hamas n'a pour l'instant pas répondu à la proposition de trêve formulée en début de semaine par Israël, mais promet malgré tout de le faire très rapidement. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, actuellement en déplacement en Israël, a pour sa part estimé qu'un refus de la part du Hamas signifierait que le mouvement islamiste n'a vraiment pas la moindre considération pour le peuple palestinien. On fait le point avec Sami Boukhalifa pour RFI.
Le Hamas doit accepter la très bonne proposition d'accord qui est sur la table, assène Anthony Blinken. Comprendre, la balle est dans le camp palestinien. Washington met donc la pression sur le Hamas, mais dans le détail, on ignore ce que signifie « bonne proposition d'accord » dans la bouche du secrétaire d'État américain. Pour le Hamas, un bon accord est synonyme d'un cessez-le-feu permanent, un arrêt total des combats et le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, en contrepartie de la libération des otages israéliens. Refus catégorique d'Israël. Hier encore, le Premier ministre israélien le rappelait « accord ou pas, notre objectif est d'éradiquer le Hamas. Quand vous souhaitez négocier avec quelqu'un, vous ne le menacez pas de mort », confiait récemment à RFI un ancien négociateur israélien. Les déclarations fortes, en apparence, du secrétaire d'État américain cachent une faiblesse diplomatique. Washington ne parvient en réalité à faire pression ni sur les Israéliens, ni sur les Palestiniens du Hamas. En Israël, Anthony Blinken arrive en terrain miné. Une partie du gouvernement israélien rejette l'accord actuellement sur la table. Les ministres de l'extrême droite menacent de faire chuter Benjamin Netanyahou s'il acceptait un accord qui nuirait au principal objectif de guerre. La priorité pour eux est de lancer une offensive terrestre à Rafah, où serait retranchée la direction du Hamas. Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
Et puis toujours en lien direct avec ce conflit qui ensanglante le Moyen-Orient, les pro-palestiniens et les pro-israéliens se sont affrontés violemment hier sur le campus de l'université UCLA en Californie. Alia Medina, une étudiante de 19 ans, regrette ainsi que ces manifestations qui agitent au total plus d'une douzaine d'universités à travers les États-Unis ne puissent pas se dérouler sereinement.
It's very sad to see that some people cannot, I guess, protest peacefully. But I think it's for a great cause. These students are here like to speak their voice and speak for people that aren't able to and actually stand up for something that they believe in. So it's a beautiful thing, but at the same time, I wish that it was kept peacefully.
Et à l'autre bout du pays, plus de 300 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par la police à New York, alors que ces manifestants occupent depuis quelques jours l'université de Columbia. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a elle dénoncé la violence et les méthodes des manifestants.
Forcibly taking over a building is not peaceful. It's just not. Students have the right to feel safe. They have the right to learn. They have the right to do this without disruption. And they have a right to feel safe on campus, as I just said. They have a right to attend their commencement without feeling unsafe. And what we're seeing is a small percentage of students. That's what we're seeing. They should not be able to disturb or disrupt the academic experience.
Le producteur déchu Harvey Weinstein devrait prochainement comparaître de nouveau devant la justice, quelques jours seulement après qu'il ait été exonéré de sa condamnation pour viol en 2020. Il avait été alors condamné à 23 ans de prison. Son avocat, Arthur Aidala, a dénoncé depuis les marches du tribunal une justice partiale.
Mr. Weinstein did not get a fair trial. I mean, that's the easiest way for people to understand it. Is that they said he did not get a fair trial and he deserves to have a do-over, although he was acquitted of the most serious charges. So it'll be a less dramatic trial. It won't be as long.
Enfin, une petite victoire pour les défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis. En effet, les législateurs de l'État d'Arizona ont abrogé une loi qui datait de 1864 en vertu de laquelle l'avortement était totalement prohibé, mais qui, très étonnamment, avait été jugé toujours valable malgré son ancienneté il y a quelques mois par la Cour suprême de l'État. Au-delà de cette question de l'avortement, cet État jouera un rôle crucial dans la course à la présidentielle dans quelques mois, tant pour Joe Biden que pour Donald Trump. Les grandes villes de France ont vu hier défiler, comme c'est la tradition, travailleurs et syndicats à l'occasion du 1er mai. Ils étaient 120 000 selon la police, 200 000 selon les manifestants, selon les syndicats. Et si l'année dernière, c'est surtout la réforme des retraites qui avait poussé les gens dans la rue, cette année, c'est notamment la question des conditions de travail pendant les Jeux Olympiques qui a animé les cortèges. Un message porté notamment par Sandrine Binet, la secrétaire générale de la CGT.
À quelques semaines des JO, moi j'ai envie de vous dire que nous en avons ras-le-bol. Ça fait plus de 2 mois que la CGT interpelle les pouvoirs publics sur tous les dysfonctionnements sociaux dans la préparation des Jeux. J'ai demandé il y a 2 mois à ce qu'il y ait une table ronde qui se tienne à Matignon pour pouvoir regarder l'ensemble des problèmes qui se posent. Nous n'avons toujours pas eu de réponse des pouvoirs publics. Ils ne sont même pas capables de trouver une date pour organiser cette table ronde avec tous les interlocuteurs et interlocutrices autour de la table. Et donc à partir de là, j'ai envie de vous demander comment voulez-vous que ça se passe bien ? On dit aux salariés de ne pas se laisser faire et de se mobiliser pour gagner des accords dans leur entreprise. Le problème, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui ne jouent aucun rôle là-dedans et que nous sommes obligés de hausser le ton pour forcer le patronat à ouvrir des négociations partout.
On vient donc d'écouter Sandrine Binet, secrétaire générale de la CGT, au micro de Nathalie Vitran pour RFI. Allez, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. Soleil et 21 degrés aujourd'hui à Adélaïde, 17 et des nuages à Melbourne. Il pleut à Perth où il fait 25 degrés, idem à Sydney où le thermomètre affiche 22 degrés, 24 à Brisbane où le temps est également humide aujourd'hui. En revanche, grand soleil et jusqu'à 35 degrés au thermomètre ce jeudi à Darwin.
Journal des sports en ce jeudi et 1-0, ça aurait été la défaite du Paris Saint-Germain en Allemagne au Borussia Dortmund. Défaite sur le plus petit des scores donc, tous les espoirs restent permis. C'est en tout cas ce que veut croire le défenseur parisien Marquinhos.
Ce sont deux équipes qui vont vers l'avant, ce sont deux équipes qui aiment bien avoir le ballon. Ce sont deux équipes qui pressent, qui veulent le ballon toujours. Et c'est pour ça que ça a été un test physique, un match beaucoup physique. Par rapport au résultat, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Des occasions claires qu'on ne peut pas les rater si on veut aller en finale. À la maison, il faut vraiment les concrétiser, des occasions comme ça. Et nous, on est venu ici pour chercher cette victoire, on n'a pas pu. 1-0, on l'a fait déjà avant, on a montré qu'on peut le faire, surtout à la maison, avec l'énergie de nos supporters, c'est sûr que ça va être un scénario différent.
Marquinhos, donc le défenseur parisien, a noté que le club du PSG aura tapé 2 fois les poteaux, donc on espère que tout ça ne sera pas des regrets mardi prochain dans le match retour qui verra donc les Allemands de Dortmund se déplacer dans l'antre du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes à Paris, donc pour le match retour de la deuxième demi-finale de cette Champions League. Dans la première demi-finale, match nul entre les autres Allemands du Bayern de Munich et le Real Madrid. 2 partout, le point sur ce match avec Antoine Grenier.
Des Madrilènes dominés mais capables d'ouvrir le score par Vinicius Junior. Les Bavarois ont cru prendre l'avantage définitivement en seconde période sur des buts de Leroy Sané et Harry Kane avant que Vinicius, de nouveau lui, n'égalise en fin de rencontre. Score final 2 partout et petit avantage psychologique pour le Real. Des Madrilènes sereins à l'image de leur milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni.
Je pense qu'on a fait un bon match. On aurait pu faire mieux sur pas mal d'aspects du jeu, mais c'est pas facile de venir ici contre cette équipe du Bayern, même s'ils sont dans une situation un peu compliquée en championnat. On sait que la Champions League c'est fait pour les grands joueurs. Ils ont une équipe avec énormément de grands joueurs, donc forcément on s'attendait à un match difficile. C'est ce qui s'est passé. Après on a cette force là collective de tout donner jusqu'à la fin. C'est sûr que le début de la deuxième mi-temps c'est pas passé comme on le voulait, mais on a réussi à revenir et maintenant rendez-vous au Bernabeu.
Voilà donc Aurélien Tchouaméni, l'international français qui joue au Real de Madrid. Le Real d'ailleurs qui n'a toujours pas remporté mathématiquement sa ligue, la Liga, mais qui est vraiment en très bonne voie. Et Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, demande aux joueurs de rester calmes et de se concentrer sur chaque objectif un par un. On l'écoute.
Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque...
Tant que nous n'avons pas remporté mathématiquement la liga, nous devons nous battre pour y parvenir. Nous sommes sur la bonne voie, notre dynamique est excellente, mais dans l'optique de nos prochains matchs de Ligue des Champions, il est important de conserver cette dynamique et il n'y a qu'une manière de le faire, jouer à notre meilleur niveau. Gagner, c'est ce que nous savons faire de mieux. Nous devons jouer, nous battre et essayer de remporter la victoire.
C'est le même, il faut compétir, lutter et tenter de gagner.
Carlo Ancelotti, donc l'entraîneur du Real Madrid. La demi-finale entre le Real et le Bayern aura lieu, elle, mercredi prochain. On reste en Espagne et Xavi, l'entraîneur du Barça, contre toute attente, reste à la tête de l'équipe. Pour lui, le projet n'est pas terminé.
Lorsque je suis allé voir le président en janvier dernier pour lui proposer ma démission dès la fin de la saison, je pensais que c'était la meilleure solution pour le club. Mais dernièrement, j'ai senti le soutien total de sa part, ainsi que des membres du conseil d'administration, du vice-président, du directeur sportif et de tout le monde autour de moi. L'engagement et le soutien aussi des joueurs qui ont insisté pour que ce projet de football se poursuive ont également joué un rôle important dans ma décision récente. Il est important que ce club reste stable et je me suis rendu compte que ce projet n'était pas encore terminé, que nous devions évidemment le poursuivre. Nous travaillons bien et même si nous ne remportons pas de trophée cette année, ce projet s'avérera gagnant à terme.
Xavi, donc l'entraîneur du Barça. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste de l'émission dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Meda igual, ça veut dire je m'en fous en espagnol et c'est le titre de ce morceau très cool du groupe L'Impératrice. 13h25, vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Et c'est l'heure maintenant du journal de l'économie en Australie. Christophe Mallet et Nicolas Perpich nous parlent aujourd'hui des déboires de la compagnie aérienne Bonza et aussi, mais aussi du coût prohibitif de la justice.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, c'est l'heure de parler d'économie à l'antenne de Radio SBS avec Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors on va parler de quelque chose qui est très intéressant pour beaucoup de monde. La compagnie aérienne Bonza qui a été placée sous administration judiciaire. L'Australie et l'histoire de ces low-cost airlines n'en finit pas de nous donner du café à moudre. Hein, on a de quoi parler. Hein.
Ah ouais, c'est sûr. Et c'est pas la dernière fois qu'on va en parler.
C'est sûr.
Bonza, c'est juste la dernière ligne qui est dans cette situation. Il y en aura d'autres.
Voilà.
C'est vraiment un marché très, très serré, un des marchés les plus compétitifs du monde. En fait, l'ancien PDG de Qantas, Jeff Dixon, lui, il blaguait avant qu'en fait, en Australie, il y a de la place pour seulement une ligne et demie Donc, selon lui, Qantas est peut-être une autre ligne. Mais là, bien sûr, on a Qantas, on a Virgin et donc Banza. C'était une ligne aérienne qui avait été commencée par l'année dernière seulement, par un ancien de Virgin Blue, donc un ancien executive, Tim Jordan. Et il avait commencé ça, mais le problème, c'était qu'ils avaient visé seulement des villes dans les régions, à la campagne. Donc, ils ne faisaient pas trop compétition entre les grands centres, entre Sydney et Melbourne. Ils avaient laissé ça pour Virgin et pour Qantas. Donc, ils ciblaient les autres endroits, mais ils avaient fait peut-être une erreur ou une des choses qui n'a pas aidé, c'était qu'ils avaient quand même acheté des gros avions. Donc, il y a d'autres lignes régionales comme Rex qui utilisent des tout petits avions. Mais eux, ils utilisaient des grands avions commerciaux et ça coûtait très, très cher. Et dès le début, il y avait des questions sur les finances de Banza et ils avaient eu du mal avec les réglementations aux aéroports. Ils se sont battus avec Qantas et Virgin pour des places aux aéroports et ils avaient aussi même du mal à trouver du personnel. Donc, c'était très dur dès le début. Et là, on a vu donc mardi qu'il y a il y avait tous les vols de Banza qui ont été suspendus autour du pays mardi matin. Donc, il y avait des passagers qui étaient arrivés avec leurs billets, ils étaient prêts à prendre l'avion. Ils étaient pris complètement par surprise, ils étaient bloqués sur place. C'était.
On parle d'un moment aussi, juste pour clarifier les gens qui ne savent peut-être pas, mais dans certaines parties du pays, c'est les vacances scolaires. Donc, ça veut dire énormément de gens bloqués qui sont à Cairns ou dans d'autres endroits par là, des gens bloqués, alors qu'en fait, on est en pleine période d'euphorie en termes de voyage.
Ouais, les gens ont besoin de rentrer chez eux.
Et tout simplement.
Il faut rentrer chez soi, il y a l'école à reprendre, il y a le travail à reprendre. Et quelqu'un te dit qu'en fait tu peux pas y aller, l'avion va même plus décoller et en fait la ligne a été placée en administration. C'est un choc.
Ouais, donc voilà, c'est pour
quelque chose d'autre.
Pour comprendre, c'est qu'il y a le créditeur principal, donc le financier principal qui a décidé de faire une injonction en justice et qui a donc cloué les avions au sol, c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé et donc cette agence dont tu parles va maintenant examiner les finances de Banza pour voir s'ils peuvent le revendre à quelqu'un d'autre, s'ils peuvent trouver une façon de refinancer la compagnie ou s'ils vont juste fermer Banza entièrement. Et ça s'est déjà passé avec plusieurs lignes aériennes en Australie. Et là, ça n'a pas l'air très bien pour Banza, encore une fois. C'est vraiment un marché très, très difficile. Qantas, en particulier, est tellement dominant et que c'est presque impossible pour les autres lignes.
C'est vrai que dernièrement, on parlait beaucoup des duopolies autour des supermarchés. L'Australie, c'est un peu un duopolie pour plein de marchés, notamment les compagnies aériennes. Vous le dites, il y avait Rex. Oui. Rex, c'est un peu le Aldi des supermarchés avec une part de marché qui est très petite. Mais le duopolie, il est là et il est bien présent en Australie.
Il est bien présent et même Virgin, ils ont eu du mal au début et c'est vraiment juste parce qu'ils avaient un milliardaire comme Richard Branson derrière eux qui ont pu vraiment tenir le coup et décoller. Maintenant, il est plus trop dans le coup et ils sont assez bien établis. Mais oui, et Rex aussi, ils ont, je crois que le propriétaire de Rex est une grande compagnie singapourienne, donc ils arrivent à pousser et financer. Mais c'est vrai que pour les gens dans les régions, c'est très important pour venir dans des grands centres pour des raisons de visiter la famille ou des raisons médicales ou même pour le tourisme, pour ces centres tout autour de l'Australie, les centres régionaux, ils ont besoin des lignes comme ça pour faire venir les touristes. Donc c'est vraiment important pour le pays en fait et pour l'économie.
Ouais, tout à fait. Et tout ça, c'est aussi un château de cartes qui s'effondre, qui a commencé à s'effondrer avec Ansett il y a quelques années. Donc c'est vrai que voilà, on va pas le redire, mais cette relation entre l'Australie et les compagnies aériennes, elle est compliquée depuis très longtemps en fait.
Voilà, ça date de, oui, voilà, exactement, un set qui était complètement établi, qui faisait partie, partie du langage très connu en Australie. Et tout d'un coup, c'était un énorme choc. Et depuis, personne n'a pu vraiment reprendre la place de.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Allez, on va parler d'autre chose. On va s'apprêter à quelque chose un petit peu différent aujourd'hui. C'est le prix exorbitant de la justice en Australie. Donc, l'effet de la justice et le lien avec la finance. Et en particulier, vous l'avez stipulé à travers tout ce qui est procès en diffamation, il y a Linda Reynolds, il y a Brittany Higgins, tout ça, c'est ça implique un coût de la justice qui est super élevé.
Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais donc le sénateur Linda Reynolds, elle a commencé un procès de diffamation contre Brittany Higgins et son fiancé David Charaz. Brittany Higgins, bien sûr. Qui avait accusé un homme avec qui elle travaillait dans le bureau de Linda Reynolds de l'avoir violée. Il y avait eu un procès. Ce procès s'était effondré et l'homme en question, Bruce Lehman, a toujours dit qu'il était innocent. Mais plus tard, il y avait Monsieur Lehman. Lui, il avait commencé son propre procès de diffamation contre Channel 10, Network 10. Et là, ça n'avait pas marché pour lui. Et en fait, le juge avait trouvé que probablement, il avait en fait violé Brittany Higgins. Bon, à part ça, donc il y a maintenant dont on parle à ce cas de diffamation séparée qui est entre Linda Reynolds contre Brittany Higgins et David Charaz. Et cette semaine, dans un tribunal ici à Perth, ça a continué. Et ce qui était très intéressant, c'était que pendant le procès, David Charaz, qui habite en France maintenant, en fait, il a envoyé un tweet où il disait « Je ne peux plus continuer, c'est beaucoup trop cher, donc je ne vais même pas me défendre contre Linda Reynolds et je vais la laisser faire. » Mais je ferai appel à elle de résoudre ça avec Brittany Higgins qui a beaucoup souffert et continue à souffrir. Donc c'était assez étonnant parce que personne ne s'attendait à ça et c'est pas comme ça que ça se présente d'habitude dans un tribunal. Les tweets, ça n'en fait pas partie, en particulier des tweets en direct. Donc le juge, il n'était pas très content. Mais de toutes les façons, la base de ça, c'est que ça peut ruiner les gens. La justice en Australie, c'est extrêmement cher. Et même Senator Linda Reynolds, qui était bien sûr ministre de la Défense, elle va peut-être devoir vendre sa maison. Donc c'est hallucinant. Le prix des avocats, c'est extrême. C'est pour ça aussi que, bien sûr, à la fin des cas comme ça, tout le monde se bat pour décider qui va payer. C'est ça qui est tellement important dans tout ça. Donc parce que ça peut ruiner les gens financièrement. Peut-être qu'ils vont gagner dans un sens et que le tribunal va trouver qu'ils avaient d'accord, mais ils vont être ruinés financièrement parce que la plupart de nous peuvent pas payer pour des barristers qui coûtaient des milliers de dollars par jour.
Donc, par heure même presque.
Tout à fait, par heure. Alors lui, David Charaz, il a dit bon non je peux plus. Donc c'est pas très clair exactement ce qu'il va faire, mais il semblerait qu'il va tout simplement pas payer pour un avocat. Il va donc pas se défendre. Donc les avocats de Linda Reynolds vont présenter leur cas, mais il y aura un fauteuil vide à côté, ce qui est assez invraisemblable, et ça va pas non plus empêcher le tribunal de trouver contre David Charaz. Donc à la fin de tout ça, il va peut-être devoir quand même payer quelque chose à Senator Linda Reynolds. Mm-hmm. Donc c'est compliqué et c'est tout ça, en fait, dans un cas comme ça tellement sensible, ça rajoute à la peine et la souffrance de tout le monde. Ça,
ouais, tout à fait. Vous nous ferez suivre, nous raconter un petit peu tout ça au fur et à mesure que tout ça se développe. Merci Nicolas.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Un genou devant tes genoux. Je regarde tes genoux, puis oh. 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 J'aime. J'aime tes genoux. À chacun ses goûts. J'aime.
j'en suis jaloux. Quand on va compter.
Certains sont fétichistes des pieds, mais le regretté Henri Salvador était lui obsédé par les genoux, comme il le raconte dans cette chanson « J'aime tes genoux », qui est en fait une adaptation du titre « Shame on you » du groupe Shirley & Co. Je vais maintenant passer le micro à Audrey Bourget. Elle nous parle aujourd'hui du lien puissant qu'entretiennent les aborigènes avec la terre.
Les aborigènes d'Australie et les habitants du détroit du Torres ont une connexion spirituelle avec la terre qui s'entremêle avec leur identité, leur sens d'appartenance et leur façon de vivre. Elles représentent leur maison ancestrale, la fondation de leur existence et la gardienne de leurs histoires. Auntie Deirdre Martin, une femme Wabanja de la nation Yuin, incarne cette profonde connexion en tant qu'aînée respectée et ranger qui travaille dans les parcs nationaux et le service de la faune sur la terre d'Ariwul en Nouvelle-Galles du Sud. Elle dit que la terre n'est pas une entité à posséder, mais plutôt une partie inséparable d'elle qui doit être respectée et traitée avec soin.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath, and it will be our last.
Le lien entre les peuples des Premières Nations et leur terre est incroyablement fort. Le simple fait d'être près de leur terre peut évoquer un sens d'appartenance qui transcende les mots.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection, and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Graham Bend, I look down the coast, and the feeling of belonging just overcomes me, and I think, I'm home.
Desmond Campbell est un fier homme Gurundji et Alwa Nalkan du Territoire du Nord est le PDG de Welcome to Country, une organisation qui encourage le développement de la richesse et du succès parmi les communautés aborigènes et du détroit du Torres. Il ressent des émotions similaires lorsqu'il retourne chez lui, sur sa terre.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just has will never leave you.
Il ajoute que c'est un endroit où il peut être lui-même et se sentir en sécurité.
Very joyful, happiness feelings that really rises all the senses in your body. And although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Monsieur Campbell dit qu'il est important de retourner régulièrement à sa terre ancestrale, non seulement pour préserver sa culture et sa langue, mais aussi pour la profonde connexion spirituelle qu'elle encourage. Cette connexion lui donne les moyens d'être un bon leader pour son organisation.
Fills me up, fills my spirit up. It allows me to be able to be living in a place like Sydney and work for an organization like Welcome to Country. Through this platform at Welcome to Country, we're sharing culture and language from all these different countries all around Australia. So for me to be able to be leading that, I need to be maintaining my culture and my language and have that integrity. And I can only do that by going home from time to time.
Monsieur Campbell explique que cette connexion spirituelle avec sa terre lui vient d'histoires qu'on lui a racontées lorsqu'il était enfant, qui contenaient de l'information et des leçons à propos de sa terre.
Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different. So the stories were different as well, because entwined with those stories were lessons about when you can go hunting during different seasons and what you can hunt. Entwined with those stories were lessons about if you do the wrong, for instance, if you play with fire during the wrong season, the consequences of a big bushfire happening and the consequences of destroying flora and fauna habitats that might be important for cultural harvesting.
Bradley Hardy est un fier homme Nia Mba, Yua Larry Ai, Kuma et Camila Roy, et un gardien moderne des pièges à poissons de Bruaruna, situé le long de la rivière Bawan. Il dit que la rivière est son sang.
It's about 700 meters north of the fish traps. I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community that brings community together. We need all those to become one.
Monsieur Hardy continue de partager les histoires de sa terre en tant que guide pour le musée de culture aborigène de Bruaruna. Il dit que c'est sa responsabilité de garder ses histoires en vie en les faisant passer à la génération suivante.
I'm fortunate enough, I'm around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And often explain this on tour. I learn from old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, but it's about honoring my old people, sharing with the young, and laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world. And it's our duty to do that as people.
Reconnue comme l'une des plus anciennes constructions humaines au monde, ces pièges à poissons sont faits de roches stratégiquement placées en forme de U et de C, non seulement pour piéger des poissons, mais aussi pour en laisser passer pour qu'ils puissent continuer leur cycle de vie. M. Hardy dit que c'est un site sacré où plusieurs groupes se rassemblaient.
It's a sacred site. We've got to try to protect it. People ask, oh, can I go down and do that? I said, no, we try not to have just anyone go into them traps, you know, so mainly for our people, you know, like for what's happened in the past year. We don't want people blowing them up or anything like that. So that's our main duty, is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world, oh, these places are special places like the traps. Try to do keep preserving our stuff and sharing our stuff.
Le parc national où travaille Auntie Deirdre compte plusieurs sites sacrés qui ont un sens sacré pour les peuples des Premières Nations. Elle indique qu'il est important d'être bien informé avant de visiter ces sites, en sachant par exemple que certains d'entre eux sont pour les hommes et d'autres les femmes.
They are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like, for instance, the men's and women's rights. We all have a responsibility to our country by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is to a women's site, and I can share that story. Sort of hard because you have a lot of male.
Engager la conversation avec les communautés autochtones locales à propos de ces sites et rechercher plus d'informations via le conseil foncier local est une preuve de respect et offre le privilège d'en apprendre plus sur la vraie histoire des peuples des Premières Nations.
And that's why we want people to come out and learn about our stuff. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history, so they can't just read about it in different books or stuff, but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff, but also be mindful and respectful of our stuff too.
Il fait beau sous la pluie, c'est le titre de ce joli morceau de Pat Kala et le super Mojo. Vous êtes toujours sur SBS, c'est l'émission en français. Et pour la dernière partie de notre émission, on va s'intéresser à une petite troupe de théâtre francophone, le Petit Théâtre Sydney, qui s'apprête à revenir sur scène avec une pièce intitulée « Huit femmes ».
L'heure est aux derniers ajustements. Mercredi soir, l'association Le Petit Théâtre de Sydney remonte sur les planches pour la première fois depuis 3 ans et tout doit être parfait pour l'ouverture le 1er mai. Ces dernières semaines, le rythme des répétitions s'est intensifié pour le groupe de passionnés, le seul à proposer une activité théâtrale en français à Sydney. 8 femmes monteront sur la scène du Chipon Street Theatre à compter de mercredi, et ce, pour 9 représentations avec la pièce « 8 femmes » de Robert Thomas, une pièce qui date de 1958, adaptée en film par François Ozon en 2002, et dont le choix a fait l'unanimité parmi la troupe, comme l'explique Elisa Trandin, présidente de l'association.
Ça a juste commencé d'une soirée entre filles, où on se disait que le théâtre nous manquait, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu être sur scène depuis 3 ans maintenant. Donc c'est la première fois qu'on remonte sur scène en 3 ans. Et toutes les personnes volontaires s'avéraient être des femmes. Et du coup, on est tombé sur le sujet 8 femmes. La difficulté qu'on a pu rencontrer, c'était retrouver un théâtre, parce que beaucoup ont malheureusement fermé pendant le lockdown. Et quand on a finalement trouvé un théâtre, on s'est lancé tout de suite sur le projet et on est très content de pouvoir remonter sur scène.
Les 8 comédiennes sont encadrées par Anna Jaja, metteuse en scène professionnelle, une bonne connaissance de l'association qui a pris plaisir à travailler sur cette pièce exclusivement féminine dont elle résume l'intrigue.
C'est l'histoire de 8 femmes qui se retrouvent enfermées à cause de la neige pour Noël. Une des filles vient passer Noël et quand elle arrive, il y a un meurtre, le meurtre du père. Donc elle mène l'enquête pour savoir qui a tué le père.
Et à cette pièce, la metteuse en scène n'a pas hésité à apporter une touche de modernité.
Quand on lit la pièce, ça fait un peu « les femmes, elles se disputent entre elles » et « qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses avec ce pauvre Marcel ?» Et en fait, nous, on a posé un regard plus « oui, mais enfin, c'est lui qui les, quand même les a enfermés dans cette maison hyper loin, qui trompe tout le monde à tout bout de champ, et merde quoi, faut un peu regarder les choses différemment. »
Les comédiennes travaillent sur la pièce depuis le mois de février, sur leur temps personnel, comme l'explique Lucie Brumont, membre du Petit Théâtre, depuis sa création en 2015.
On se voyait une fois par semaine, pendant 3 heures à chaque fois, des répétitions de 3 heures. Et plus récemment, quand on approchait la date de la première, on s'est vu aussi plusieurs soirs par semaine, et des week-ends aussi, pour peaufiner et travailler un peu plus, ouais.
Pour Lucie, ce ne sera pas la première représentation, mais même après plusieurs années passées à monter sur scène, le stress se fait sentir à l'approche du jour J.
À chaque fois, c'est toujours très stressant. Toujours peur de se tromper, de mal faire, de ne pas se souvenir de tout ce dont on doit se rappeler. Et toujours avoir le souci d'être au top. On sait qu'on sait le faire, on sait qu'en répétition on y arrive, mais une fois qu'on est sur scène, voilà, est-ce que ça va être aussi bien? C'est toujours ça, je pense, qui met un peu la pression à tout le monde. Mais la metteur en scène n'arrête pas de nous répéter, il faut surtout vous amuser, c'est ça qui compte et c'est là que ça va le faire.
Et malgré le stress, pour toutes les comédiennes, c'est bien le plaisir de remonter sur les planches qui prend le dessus. Un sentiment résumé par Audrey Heppel, une autre des 8 comédiennes qui monteront sur scène à partir de mercredi.
On se marre en fait. On est toutes, on n'est pas des comédiennes professionnelles, on a tout un boulot à côté, mais on se retrouvait tous les lundis soirs et j'avais toutes les semaines très hâte d'être au lundi soir parce que on rigole bien, on travaille, on bosse, on avance. Et voilà. Et du coup là, on est toutes très excitées d'être pendant 2 semaines sur scène et prendre du plaisir.
Et les représentations du Petit Théâtre démarrent ce mercredi 1er mai à 19h30 au Chipon Street Theatre de Chippendale à Sydney. Elles se poursuivront tous les soirs jusqu'à samedi à la même heure, 19h30. 5 représentations sont également prévues du mardi 7 au samedi 11 mai. Les billets sont en vente sur le site Le Petit Théâtre Sydney. À noter que la pièce convient aussi bien à un public francophone qu'anglophone. L'intégralité de 8 femmes sera surtitrée sur un écran pendant la représentation afin de permettre de suivre une traduction des dialogues.
Et SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau très langoureux de Bertrand Burgala qui s'appelle « L'homme idéal ». Pour nous, à SBS French, à vrai dire, l'idéal ce serait que vous soyez au rendez-vous de notre prochaine émission. Ce sera samedi à 13h. Et en attendant, pour ne rien rater, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préféré. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Passez une excellente fin de journée et j'espère à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.